Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit, et je reviens à cette première partie, qu'est-ce que ça nous dit sur l'homme? Vous voyez cette remarque, l'homme est nu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme est nu? L'expérience qu'on fait, une expérience qui est très simple, c'est que quand on voit un homme, on voit bien qu'il porte des vêtements. Ça veut dire ça, l'homme est nu. Vous avez compris? Non? Oui. Mais oui, c'est évident. Parce que un animal, une bête, un autre animal, est-ce qu'il peut être nu? Non. Est-ce qu'il peut être habillé? Il peut être... Oui, non, bon. Le caniche a sa mémère, bien sûr. On lui met un petit truc, un petit gilet écossais. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, ce truc-là, mais c'est vrai que beaucoup de chiens sont écossais, en fait. Hein, et une sorte de mode écossaise chez les chiens qui a primé d'abord, mais je pense que ça doit changer maintenant. Et alors, on leur met des petites tenues. Oui, mais je parle en eux-mêmes, naturellement. Si vous voyez un chien, il a son pelage. Est-ce que vous pouvez dire qu'il est nu? Non. Est-ce que vous pouvez dire qu'il est habillé? Non. Les autres animaux sont ni nus ni habillés. Ne peut être nu qu'un être capable du vêtement. Sachant d'ailleurs que la nudité chez l'homme est en fait la nudité la plus forte, la plus... dans les deux sens, que ce soit dans le trouble érotique ou que ce soit dans la déshumanisation. Oui. Parce que c'est... quand on dénude, enfin, quand quelqu'un est dénudé, surtout pour l'homme, hein, je dis bien ça parce que c'est pas vrai dans l'autre sens. C'est une déesse. Soit c'est une déesse, soit c'est une bête. Avec certaines conditions, bon, on peut imaginer les conditions cliniques, on met quelqu'un de nu, mais quand vous dénudez quelqu'un dans la médecine, par exemple, c'est pour l'objectiver. C'est pas pour le voir comme un sujet, vous voyez. Donc on va du côté, non pas de la bête, mais de l'objet, vous voyez. La réduction à un objet. D'accord? Donc, vous voyez, la nudité de Vénus, c'est une déesse, hein, femme qui se dénude dans le cadre érotique, elle apparaît dans une nudité glorieuse. Elle est pas un objet, elle est un super sujet, vous voyez. À tel point que l'homme lui-même se sent objet gravitant autour de ce sujet-là. Bon. Mais... il y a une forme de dénudation qui est le fait que, vous voyez, quand on déshabillait les gens qui entraient dans les camps de concentration, on les réduisait à des objets, à tel point que c'était on les comparait à du bétail. Frank Stangl, qui a été... Stangl, c'est drôle comme nom. C'est pas bien ce que t'as fait, Frank Stangl. Bon, oui, bah oui, on pouvait lui dire ça, enfin ça suffisait pas quand même, parce qu'il était donc le commandant de Treblinka. Donc Frank Stangl, commandant de Treblinka, quand il est parti, vous savez, il fait partie des gens qui ont réussi à fuir en Amérique latine, et quand on va le retrouver et qu'une journaliste hongroise, Gita Sereni, va faire des entretiens avec lui, il dira, bah, quand je voyais vous savez, les grandes haciendas avec du bétail et tout ça, il dit, je regardais les yeux des vaches et ça m'a fait penser au regard des juifs quand ils arrivaient, quand on les mettait nus, etc. Il dit, ben voilà, une ambiguïté, si vous voulez, de la nudité humaine. Bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la nudité, justement, érotique, et toujours la nudité d'un sujet qui est d'abord habillé. C'est-à-dire, c'est une dénudation. Sinon, ça devient un objet, si vous voulez. S'il y a l'acte de se dénuder, en l'acceptant volontairement, hein, donc, de manière qui est la moins objective possible, c'est-à-dire donc dans une intimité. Je ne suis pas en train de faire l'éloge du striptease ici. Hein. Mais vous voyez, il y a quelque chose, et c'est là où la nudité devient si forte. C'est-à-dire que la nudité est toujours quelque chose qui est corrélative au vêtement. Et c'est pour ça que la nudité érotique est une dénudation, et non pas une nudité brute, donnée objectivement. Vous voyez, jamais ça. Toujours un lien avec le vêtement. D'accord ? Alors, je reviens sur ce qui est dit là. Vous voyez, l'homme est nu, mais ne peut être nu qu'un être qui est fait pour avoir des vêtements. Et c'est la première expérience qu'on fait. C'est-à-dire, quand vous voyez le bébé, effectivement, il est nu, il n'a pas de défense naturelle, il n'a pas l'épais pelage, il n'a pas... il ne va pas avoir les sabots qui permettront de marcher sans se faire mal. Et donc la technique va venir, l'art va venir, et ce premier art qui est celui de fabriquer des habits, de fabriquer des défenses, de fabriquer des... Vous voyez, pour compenser et pour permettre la survie. D'accord ? Alors c'est ça la première chose qu'on pourrait reprocher à ce texte, c'est que la vision de l'art est quand même un peu utilitariste ici. Elle n'est que moyen de survie. La techné n'est qu'un moyen de survie, et là on voit la limite de Protagoras. Vous avez remarqué que tout chez Protagoras, et c'est là la grande différence avec Platon ou Socrate, c'est que tout se ramène à quoi ? À la survie, à de l'utilité. On est dans une conception fonctionnaliste. Il avait les moyens de conserver. Est-ce que c'est ça le premier objet de la techné ? Contre cela, vous savez, Socrate, Platon, va parler d'abord de la relation de l'homme avec la beauté. Et donc, l'expérience du ciel chez Platon, c'est toujours d'abord l'expérience du beau. Et donc, ça signifie que là, on sort de quelque chose qui est fonctionnel ou utilitariste. De telle sorte que la techné ne serait pas d'abord moyen de survie, mais d'abord moyen de célébration, d'expression d'une beauté. Vous voyez, on retrouverait un peu ce que je vous avais dit à propos de Portman par rapport à l'utilitarisme qu'on trouve dans la plupart des sciences biologiques d'aujourd'hui. Est-ce que la technique, ce sont que des moyens de survie ? Vous voyez, est-ce que c'est ça ? Et on a l'impression qu'il y a toujours cette idée qu'il s'agit de survivre, d'entrer dans un combat pour la vie. Et voilà, bon, c'est un peu la limite la limite de ce mythe, et je pense que c'est le grand reproche qu'on peut lui faire. Et on retrouvera des traces de ce fonctionnalisme dans la plupart des interprétations de ce mythe, voire même de celles qui vont le critiquer. Alors, vous voyez que l'homme est le seul animal à être nu, et la technique va venir compenser donc cette faiblesse. Mais elle va compenser cela par quelque chose de très mystérieux, qui est le caractère divin de l'art. Il ne faut pas oublier que l'art est volé aux dieux. Et dès lors, vous voyez, il s'agit de faire en sorte que l'homme compense sa faiblesse par rapport aux autres animaux par quelque chose qui n'est pas simplement le fait de se ramener à égalité avec les autres animaux, par quelque chose qui vient des dieux. Et donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que Protagoras présente en premier lieu la technique comme ce qui va distinguer l'homme des autres animaux, comme la part divine qui distingue l'homme des autres animaux. Après, il y aura bien sûr les vertus politiques, mais c'est d'abord la connaissance des arts et le feu. Et c'est pour cela que il y a eu, vous savez, cette définition qu'a faite Benjamin Franklin de l'homme, hein, a tool-making animal, un animal fabricant des outils, parce que pour être un être doué de techné, il ne s'agit pas simplement d'avoir l'air de fabriquer quelque chose, comme un oiseau fabrique un nid ou comme un singe emploie un bâton pour obtenir telle ou telle chose, voyez, parce qu'il sait. Non, c'est vraiment le lieu de la technique, c'est l'outil. Hein, c'est-à-dire vraiment fabriquer des outils qui permettront de fabriquer des choses et conserver ces outils, que ce ne soit pas un outil simplement, mais ce n'est pas un objet occasionnel qu'on emprunte au moment où on en a besoin, comme fait le singe. C'est pour ça que la définition de l'homme comme technicien, ce n'est pas simplement celui qui fabrique ou qui opère sur des matières extérieures, c'est celui qui d'abord fabrique des outils qui permettent de fabriquer. Vous voyez, cette sorte de réflexivité, de conservation des outils. Et on reviendra de toute façon, on aura des réflexions assez importantes sur la notion d'outil. Donc voilà le mythe important de Protagoras, le mythe de la faute d'Épiméthée. Et alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va retenir de ce mythe? On va retenir philosophiquement, pour commencer, deux choses qu'on va voir à travers deux auteurs, Thomas d'Aquin et saint Augustin. Thomas d'Aquin, c'est complètement aristotélicien. Saint Augustin, c'est beaucoup plus théologique et lié à la théologie chrétienne. Mais on voit qu'il y a un repérage de deux points importants dans Smith qui va marquer, on pourrait dire, l'histoire de la technique pour l'homme. Ce mythe nous fait voir une compensation et une compensation pour la survie, mais en même temps divine. Donc il y a une vision qui est fonctionnaliste, mais qui en même temps nous laisse entendre qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la fonction, puisque ça vient des dieux. Bon, mais c'est pas clair, et on sent qu'il y a le risque d'être dans une réduction utilitariste de ce qu'est la techné. Alors, Aristote va parler de cela, mais sans passer par le mythe. Aristote va dire, les autres animaux ont des défenses, des couvertures, des habits naturels, et l'homme, lui, qu'est-ce qu'il a à la place de ça? L'homme, il apparaît comme nu, et il a quelque chose qui non seulement compense, c'est pas une simple compensation, mais qui est conforme à sa nature, qui est d'être une nature, on l'avait vu en cours d'anthropologie fondamentale, ouverte à toute l'amplitude de l'être. D'être une nature encore plus conforme à la nature. Et si vous vous souvenez, la nature et la fusée, c'est ce qui permet de produire des formes, c'est la puissance à inventer des formes. Et bien l'homme est celui qui est capable de connaître toutes les formes, qui a la forme des formes, dont le corps est dans l'axe de l'univers et qui en plus est capable de produire une multitude de formes. Alors cette thèse d'Aristote, je vous la donne à travers sa relecture par Thomas d'Aquin dans la Somme de théologie. Mais là-dessus, il est parfaitement aristotélicien. Simplement, il donne un très bon une très bon résumé et puis une très bonne articulation rationnelle de ce qui est dit. Les cornes et les griffes, qui sont les armes de certains animaux, l'épaisseur du cuir, l'abondance des poils ou des plumes qui les couvrent, attestent l'abondance en eux de l'élément terrestre. Or, celle-ci est contraire à l'égalité et à la délicatesse de la complexion humaine, et c'est pourquoi ces choses ne convenaient pas à l'homme. Vous avez vu? Première remarque aristotélicienne, qui est de dire, attention, ça n'est pas pour compenser, ça, on n'est pas dans l'utilitarisme, d'abord. Ce n'est pas pour survivre. C'est parce que d'abord, dans la nature humaine, il y a une subtilité de la complexion. Vous savez, l'idée qu'il y a un équilibre chez l'homme qui fait qu'il ne pouvait pas avoir des gros poils, une peau trop épaisse, etc. Parce qu'il doit avoir la sensibilité la plus grande. Vous savez, celui qui a le toucher le plus le plus sensible, le plus fin, et le toucher étant le fondement des autres sens, ben voilà, hein, et il a une sensibilité plus ouverte, non pas plus aiguë, non pas plus fine. L'aigle voit mieux que l'homme, le chien odore mieux, tout ça. Mais non, mais une sensibilité plus ouverte au monde. Et vous voyez, cette ouverture au monde suppose en l'homme un équilibre des humeurs, un équilibre des éléments, qui fait qu'il ne doit pas y avoir trop de terre, par exemple, en lui, parce qu'il serait trop dur. Vous avez toujours cette idée chez les anciens que pour connaître quelque chose, il faut lui ressembler. C'est le semblable qui connaît le semblable. Donc il faut qu'en l'homme, il y ait suffisamment de similitude avec tout ce qui est dans l'univers, et donc un savant dosage de tous les éléments, vous voyez, pour qu'il puisse être ouvert à l'univers tout entier. Et chez les autres animaux, il y aurait justement des peaux dures, des griffes, mais qui justement les limitent, les spécialisent, les ramènent uniquement à ce qui est pour leur espèce. Et l'homme, il a cette ouverture sur l'être. Donc vous voyez, déjà, ça n'est pas une compensation utilitaire qui est mise en avant. Là, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est propre à la nature humaine et qui est ce qu'on pourrait appeler cette ouverture au monde, ou le fait que l'homme est là pour convenire cum omniente, hein, entrer en résonance avec toutes sortes d'êtres. Alors voilà, et voilà ce qui est dit, ça rejoint la note mythe, mais à leur place, l'homme possède la raison et ses mains, grâce auxquelles il peut se procurer des armes, vêtements et autres choses nécessaires à la vie, et cela selon des modalités infinies. Aussi la main est-elle appelée, au traité de l'âme, l'instrument des instruments, cela convenait mieux aussi à une nature douée de raison, infiniment fertile en conception et capable de se procurer des instruments en nombre infini. Voyez, l'homme n'a pas de défense naturelle, mais il a dans sa nature la raison et les mains qui vont lui permettre naturellement d'être capable de culture, capable d'art, et par là, se procurer tout ce qui est nécessaire, et même au-delà du nécessaire, puisqu'on est, vous voyez, dans des modalités infinies. Donc, cette première remarque, la raison et les mains nous distinguent des autres animaux. Et vous remarquerez que Thomas insiste pour dire que c'est la raison et les mains. La main, instrument des instruments, instrument universel, qui est, vous vous souvenez, donc l'organe vraiment proportionné à la raison qui est capable d'une connaissance universelle, c'est-à-dire ouverte sur tout l'univers. Notre raison est toujours une raison, on pourrait dire, inscrite dans la main, manuelle, et on aurait ici cette idée que j'ai essayé de vous proposer dès le départ, sur le fait que la raison est toujours déjà, dès le départ, instrumentale. Sachant que l'instrument, par excellence, c'est la main. Instrument qui n'est pas un instrument séparé, qui est un instrument conjoint, qui est l'instrument de notre corps, mais qui est l'instrument des instruments. Le modèle de l'instrumentalité, c'est la main. Et dès lors, un outil, c'est ce qu'on a bien en main. C'est ce qui permet un maniement. Sachant que le maniement lui-même est ce qui est docile à l'intelligence humaine. À l'intelligence humaine, pas simplement comme ce qui impose sa loi, mais comme ce qui est aussi réceptif au réel. Attention, c'est pas... Être docile à l'intelligence, c'est être docile au réel. D'accord ? C'est pas l'intelligence pensée comme puissance dominatrice qui s'imposerait à un réel extérieur. Puisque l'intelligence, elle est capacité de connaître l'être tel qu'il est en lui-même. Et pas simplement par rapport à soi. Vous voyez ? Être docile à mon intelligence qui elle-même est réceptive au monde. Vous voyez ? Mais sachant aussi que ma réceptivité du monde, elle passe par ma sensibilité, donc ça passe aussi par la main. Et vous voyez comment il y a ce complexe, vous voyez, de lien entre l'intelligence et la main chez l'homme. Donc nous sommes nus parce que nous avons une raison et des mains. C'est extraordinaire d'ailleurs. Mais penser que la nudité humaine est profondément liée à sa nature rationnelle. C'est une phrase incroyable si vous réfléchissez un peu. Parce que il a cette nature rationnelle, ça veut dire qu'il doit avoir une sensibilité qui est équilibrée, une complexion subtile, donc il ne pouvait pas avoir une peau épaisse, il ne pouvait pas avoir un pelage, il ne pouvait pas avoir... Vous voyez, il a une nature rationnelle, il a donc des mains et un corps dénudé. La nudité étant... Vous voyez, c'est très intéressant, la nudité est pensée chez Thomas d'Aquin et chez Aristote comme ce qui fait l'équilibre... Vous voyez, de notre sensibilité, la finesse de notre sensibilité. Vous voyez, nous sommes les animaux qui avons la peau la plus fine, nous sommes les animaux qui, sensibles aux chatouilles, dira, vous voyez, pour montrer cette finesse du toucher, c'est ce que dit Aristote. Hein. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, hein, parce que si vous trouvez toujours, je vois certains qui grimacent, Jean, mais... quand vous lisez un texte, quand vous lisez une affirmation de ce genre... Je vous l'avais déjà dit en plus, hein, il ne faut jamais dire « Ah oui, mais non, il y a des exceptions. Moi, je vois par exemple, quand je caresse mon chat, il fait des petits couinements. Ou... » Donc, ce n'est pas le seul animal sensible aux chatouilles, l'homme. Mais le problème n'est pas de faire un inventaire exhaustif, dire « Oui, voilà, ben, c'est vrai, on a vu qu'il n'y avait que lui. » C'est d'essayer de voir qu'est-ce qui est dit de l'homme quand on dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Le but, ce n'est pas d'être sûr, d'être les seuls à être chatouilleux, vous voyez, c'est pas ça. J'espère que je suis le seul à craindre les chatouilles dans toute la création. Bon, ça, on n'en a rien à faire d'une certaine façon. C'est surtout de comprendre que l'homme a cette sensibilité, vous voyez, extrêmement ouverte au monde, extrêmement réceptive. Et que ça, c'est un cas, voilà, particulier, un signe, mais ce n'est pas la chose qui est importante à comprendre ou la plus essentielle. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la nudité vient de la sensibilité au monde qu'a l'homme, et il fallait qu'il soit nu pour avoir cette sensibilité, sinon il aurait eu un toucher recouvert, entravé par des défenses. Donc il fallait qu'il soit nu. Alors que d'autres auteurs, par exemple Grégoire de Nice, mais qui relève d'une autre tradition ancienne, hein, Nice qui s'écrit N-Y-2-S-E, je vous le rappelle, et c'est pas comme l'autre père, non pas de l'Église, mais enfin bon, qui s'appelle Brice de Nice, c'est pas pareil que ça s'écrit. Alors, Grégoire de Nice, lui, dit la nudité de l'homme fonctionne comme un aiguillon. C'est pas simplement lié à la sensibilité, c'est qu'en plus, je suis à poil. Voilà, il faut que je me bouge pour me procurer des trucs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui pousse l'homme en plus. Vous voyez, c'est cette vulnérabilité de l'homme qui le pousse à être inventif. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas simplement lié à sa sensibilité au monde. C'est une sensibilité subtile qui lui permet d'accueillir le monde. Mais c'est aussi, d'après Grégoire de Nice, vous voyez, une vulnérabilité qui le pousse à être inventif. C'est dans l'œuvre de Grégoire de Nice, La création de l'homme. Hein. Il insiste là-dessus, sur cet aiguillon de la vulnérabilité. Donc l'homme est plus sensible, plus vulnérable, c'est pourquoi il est nu, et c'est pourquoi, justement, il a aussi cette capacité, la raison et les mains. Donc il y a une dimension technique qui va lui permettre de se fabriquer des choses. Et voilà, ça c'est la remarque de Thomas. Et alors je vous avais promis une remarque d'Augustin, qui est une manière de lire le mythe de Protagoras. Augustin, dans les questions diverses, a cette phrase assez étonnante. « Cet art souverain du Dieu Tout-Puissant art par lequel tout fut tiré du néant et qu'on nomme encore sagesse, c'est également lui qui agit par les artistes, ici pris comme artisans, hein, aussi, pour leur faire produire des œuvres belles et proportionnées. Toutefois, il n'opère pas à partir de rien, mais d'une matière donnée. Donc, deuxième thème qu'on peut retirer du mythe, et qui nous servira de base aussi, toujours de méditation, c'est l'idée que l'art est une participation au divin. Ici, on peut l'entendre, d'après ce qu'a dit Thomas d'Aquin, c'est lié à la raison. Ben, à la raison, c'est une participation, c'est quelque chose de spirituel, donc c'est une participation à l'Esprit de Dieu. Mais là, c'est la raison même en tant qu'elle est instrumentale, en tant qu'elle est capable d'art. Et vous voyez, c'est ce qu'on avait entendu chez Protagoras. L'art, c'est notre affinité avec les dieux et c'est ça qui fait que nous croyons à leur existence. Vous vous souvenez, hein ? Très intéressant. L'idée que la raison instrumentale ne nous conduirait pas à Dieu, mais seulement la raison contemplative, non, c'est la raison instrumentale qui nous conduit à Dieu. Et on retrouve quelque chose d'analogue, hein ? Les artistes participent de l'art divin. Alors, la vraie question qui va se poser pour nous, c'est comment est-ce qu'on entend ça ? Parce que, moralement, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de terrible ? Parce que vous allez dire, oh oui, mais alors, si c'est l'art divin qui est à l'origine du monde, et que mon art participe à l'art divin, alors je pourrais me prendre pour un créateur et avoir un rapport despotique au monde, éventuellement. Ouais, c'est ce par quoi je suis un dieu... Mais regardez ce que dit Augustin, et qu'on retrouvera d'ailleurs chez tous les auteurs, même les auteurs qui pensent que l'art est notre participation à la divinité, eh bien même ceux-là ne diront pas « on peut faire n'importe quoi de la nature » parce que leur idée, c'est toujours que la nature est l'œuvre de l'art divin. Et si elle est l'œuvre d'un art divin, à ce moment-là, on ne peut pas faire n'importe quoi avec elle. On retrouvera ça même chez Descartes. Hein. On a souvent fait de Descartes celui qui va être l'apôtre, on pourrait dire, de la technoscience future. Et celui qui va nous dire, voilà, vous pouvez faire... Le monde extérieur, c'est qu'un mécanisme. Donc, si c'est que du mécanisme, vous avez déjà entendu ça, hein, donc il n'y a pas tant à s'émerveiller que ça, il n'y a pas rien... Mais attention, Descartes dit, oui, c'est un mécanisme, mais c'est un mécanisme qui sort des mains de Dieu. Les animaux sont des machines, mais ce sont des machines... divine. Qui a fait la machine ? Ben, l'ingénieur divin. Donc alors à ce moment-là, on ne fait pas n'importe quoi avec. C'est pas... Mais déjà, vous voyez, le mécanisme tend à voilà, perdre l'idée d'un simple art divin, à aller vers quelque chose qu'on peut réduire à des éléments, qu'on peut décomposer, etc. Mais il est certain qu'il y a toujours cette idée que, attention, nous participons à l'art divin, ça ne veut pas dire... Donc c'est quelque chose qui nous rend différents des autres animaux, qui presque nous rend presque extérieurs à la simple nature matérielle, oui, mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, on peut écraser la nature matérielle, parce que ça vient dire aussi que cette nature matérielle est l'œuvre de Dieu. Et donc, il y aura toujours, vous voyez, cette relation à la nature, qui est une relation comme une matière qui est d'abord donnée. Vous voyez, nous ne sommes pas des créateurs, dit Augustin. Nous sommes des artisans, nous participons à l'art divin, mais l'art divin, lui, tire à partir de rien, nous partons toujours de quelque chose antérieur. Donc même si on pense que le feu et les arts viennent des dieux, ça doit toujours s'inscrire dans un ordre donné. D'accord ? C'est pas comme si ça faisait irruption et qu'à cause de cela... on devait mépriser l'ordre. Au contraire, le fait que ça vient des dieux nous impose une mesure, nous interdit la démesure, parce que si les arts viennent des dieux, cela signifie que nous devons respecter l'ordre mis en place par les dieux. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans l'histoire du Prométhée. Vous vous souvenez, hein, souvent on avait fait de Prométhée, et on trouve toujours, pour dénoncer la technique contemporaine, on parle de son prométhéisme. Et on dit, regardez, la technique est prométhéenne, titanesque, ça veut dire dans la démesure. Et on pense à quoi ? On pense au Prométhée enchaîné d'Eschyle. Mais le Prométhée enchaîné n'est que la première partie, vous vous souvenez, d'une trilogie. Dans le Prométhée enchaîné, il dit qu'il est un dieu qui souffre à cause des dieux. Il dit « Je hais les dieux à cause de ça ». Et on a l'impression que d'avoir volé l'art, vous savez, il est puni, il est avec son foie qui est dévoré sans cesse par un nain, etc. Donc il est puni pour avoir volé le feu et les arts aux dieux. Et on dit, bah, il dit « Mais moi, j'ai rien fait, j'ai aidé les hommes, j'ai secouru les hommes, et c'est pour ça que je suis martyrisé, d'une certaine façon. » C'est injuste. Et donc, on a l'impression que l'homme, par la technique, se révolte contre l'ordre voulu par les dieux. Voilà. C'est pour ça qu'on parle du prométhéisme comme cela. Et toute l'histoire d'Eschyle, c'est qu'il va y avoir après le Prométhée délivré, ou en voie de délivrance, dit Karl Reinhardt, puisque ce n'est pas à la fin de cette pièce qu'il est vraiment délivré. Bon. Et puis le Prométhée porte-feu, où il y a une vraie réconciliation avec Zeus. Et on nous rappelle que... Prométhée va devenir le patron des forgerons et des potiers hein, à Athènes, de tous ceux qui justement utilisent le feu et l'art pour produire des choses. Hein. Ben voilà, la métallurgie, la poterie, il faut du feu, ça cuit. Hein. Mais surtout, ça va, on va voir que Prométhée se réconcilie avec les dieux. Donc, même si l'art produit quelque chose, c'est toujours en lien avec un ordre donné. Chez les anciens, toute démesure, toute croissance illimitée apparaît comme une faute. Il faut respecter la borne dressée par nos pères, il faut respecter l'ordre de la fusis, il faut respecter l'ordre voulu par les dieux. La techné vient des dieux, mais ça ne nous donne pas une sorte de prérogative qui nous permettrait d'écraser la nature en nous prenant pour des dieux. Non, mais je dis souvent cette chose, hein. Prenez-vous pour des dieux. Prenez-vous pour Dieu. On dit souvent, on fait un reproche à ce type, il se prend pour Dieu. Et ce serait mal. En fait, quand vous dites ça, c'est que vous avez un concept de Dieu qui est erroné. Parce que si vous vous prenez vraiment pour Dieu, vous n'êtes que miséricorde. Si vous vous prenez pour Dieu, c'est n'êtes que miséricorde, n'êtes que ménageant un espace à vos créatures, à tel point que vous avez l'air de vous effacer complètement. Vous vous prenez pour Dieu, ça veut dire que vous respectez l'ordre de la création et que vous allez très vite mourir à 33 ans sur une croix. Vous prenez pour Dieu, pour le salut des hommes. Prenez-vous pour Dieu, merde. Arrêtez. Non, mais vous comprenez, se prendre pour Dieu, peut-être, mais l'enjeu, c'est, ça veut dire, à ce moment-là, je respecte un ordre donné. La techné, qui est puissance d'invention, puissance de s'ouvrir à des modalités infinies, puissance divine qui nous distingue des autres animaux, malgré tout, s'inscrit à l'intérieur d'un ordre donné et ne pourra jamais entrer dans une démesure par rapport à cet ordre donné. Même l'histoire du Prométhée d'Eschyle nous montre ce moment où la techné aurait la tentation, vous voyez, d'aller contre l'ordre divin. Mais à la fin, on entre dans une dévoration incessante, vous voyez, du titan hein, par l'aigle, et ça se régénère, et ça se dévore, et ça... Oui, c'est ce qu'on est en train de vivre, oui. Mais à la fin, il y a Prométhée devient quand même, dans une réconciliation avec Zeus, devient celui qui manifeste une technique en accord avec le cosmos. Vous voyez, et non pas écrasant le cosmos. Donc, être prométhéen, c'est pas du tout ce qu'on croit aujourd'hui, vous voyez. C'est trouver une technique en accord avec le cosmos. Voilà, on va s'arrêter ici.